Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. La guerre en Ukraine a des répercussions sur les pays frontaliers comme la Pologne, la Hongrie, la Moldavie et la Roumanie, qui partagent à l'est une frontière fluviale, le Danube, avec son grand voisin en guerre. C'est sur ce fleuve que transitent les cargos exportant le blé ukrainien depuis le port d'Izmaïl. Et l'an dernier, les bombardements russes ont frappé très près de la Roumanie, pays membre de l'OTAN, si près que des débris sont tombés côté roumain dans la campagne du Delta. Un petit village de pêcheurs s'est d'ailleurs retrouvé au centre de l'attention mondiale lorsque des fragments de drones russes ont été retrouvés sur ces terres, avec des conséquences désastreuses pour les habitants. Un balcon sur la guerre, c'est un reportage à Plahorou, à la frontière roumano-ukrainienne de Léonard Vincent.
Le village de Plahorou, c'est le bout du monde. Pour y arriver, il faut prendre le bac, rouler une demi-heure dans la campagne déserte, entre les peupliers et les pâturages, et passer les points de contrôle de la police des frontières qui traque les espions russes et les déserteurs ukrainiens. Plahorou, c'est aussi le bout de la Roumanie, à l'extrémité nord-est du delta du Danube, l'extrémité aussi de l'Union européenne, car de l'autre côté du fleuve, c'est l'Ukraine.
Avant la guerre, avec les Ukrainiens, on se comportait en voisins. Les gens venaient avec leurs bateaux, on se saluait. Entre voisins, on se comprenait.
Le vieux Georgi vit seul dans sa ferme sous les arbres, en bordure du Danube, avec ses bêtes, face au port ukrainien d'Izmaïl. Aujourd'hui, son bout de terre reculé, c'est un balcon donnant sur la guerre.
Les bombardements m'ont réveillé en pleine nuit. J'entendais les drones. Alors je suis sorti dans ma cour. Les explosions faisaient un bruit terrible. Elles faisaient trembler les murs. En décembre, il y a eu un dernier bombardement. Depuis, c'est calme.
Car le port ukrainien d'Izmaïl, dont les grues, les silos à grains, les entrepôts se dressent de l'autre côté du fleuve, est une cible stratégique pour l'armée russe. C'est de là, en effet, que partent les cargos de blé ukrainien trop exposés au feu à Odessa, à 200 km de là. Au bout d'un chemin de terre, voici la ferme de la famille Tanazé. Un bélier est attaché à l'ombre d'une voiture désossée et deux chiens joyeux accueillent les visiteurs. Assise sous sa tonnelle, Daniela montre sur son téléphone les vidéos qu'elle a enregistrées une nuit de septembre.
Notre sentiment aujourd'hui, c'est la peur. Même quand on n'entend pas les sirènes d'alarme, on ne sait pas trop ce qui peut arriver. On s'est réveillé et on a entendu un drone passer au-dessus de la maison. Au début, les autorités ne nous ont pas pris au sérieux. Ce n'est que plus tard, quand on a trouvé 5 débris de drone autour de chez nous, qu'on a commencé à nous croire.
Car Plahorou a beau être le bout du monde, le village s'est soudain retrouvé au centre de toutes les attentions quand Izmaïl a été bombardé. Des journalistes du monde entier se sont rués sur la zone et la ferme des Tanazé.
Chaque nuit ou presque, ce village roumain, situé à la frontière ukrainienne, est réveillé par le son des sirènes.
It is too dangerous to fish at night because their outboard motors sound like Russian drones.
C'est grâce à la ténacité du maire de la commune, Tudor Cernega, que les autorités roumaines ont finalement reconnu que la guerre en Ukraine avait en effet débordé de l'autre côté du Danube. Alors des abris ont aussitôt été construits pour les habitants et des renforts militaires ont été déployés. Mais c'est bien peu, estime aujourd'hui le maire.
J'ai fait campagne pour les municipales comme membre d'un parti de la coalition au pouvoir, mais je suis quand même très déçu par l'État roumain. À la municipalité, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et rien n'a été fait par le gouvernement, notamment pour les pêcheurs qui subissent des pertes importantes. Ça a été utile, bien sûr, d'installer un relais téléphonique pour pallier la faiblesse du signal pour les habitants du village. Mais tout se passe comme si l'État roumain prenait davantage soin des citoyens ukrainiens que des citoyens roumains. C'est une grande déception.
Ici, c'est un petit bout de campagne, alors que de l'autre côté, c'est un grand port industriel d'où l'on voit seulement dépasser des toits de tuiles et les bulbes dorés de deux églises. Traînant autour de sa barque à moteur, Kostić Atanasé, le mari de Daniela, dit ne plus avoir qu'un seul filet pour pêcher. Les autres ont été déchirés ou abîmés par les cargos qui s'ancrent sur le fleuve côté roumain pour se protéger des bombes.
Déjà, j'ai perdu pour 2000 euros de matériel avec la destruction de mes filets. Et aujourd'hui, je ne parviens plus à faire mon quota de poissons pour renouveler ma licence de pêche. Avant, je faisais environ 1,5 tonnes. Aujourd'hui, je ramène seulement 200 kilos. On m'a fait des promesses d'aide avec le soutien du maire, mais je n'ai eu aucune nouvelle. Regardez, là, exactement là, d'ici à l'Ukraine, il n'y a que 150 mètres. Tous les soirs, il y a une vedette militaire ukrainienne avec une batterie anti-aérienne qui se positionne là, là où je pêchais avant. Et puis, il y a des jeunes Ukrainiens qui s'échappent. Rien que la semaine dernière, trois déserteurs sont passés côté roumain sur un canot pneumatique.
À la mairie, le maire Tudor Cernega ne décolère pas contre les autorités de Bucarest.
J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je suis très amer. Les gens ont commencé à quitter le village. Un couple d'anciens qui avaient été prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale ont vendu leur maison et ils sont partis. Un homme a émigré en Italie. D'autres veulent partir à cause de la tension. On a construit des bunkers, bien sûr, mais comme les sirènes sonnent aussi à Izmaïl quand Odessa est attaquée, les gens commencent à se dire que cela ne sert à rien de s'y abriter ou de s'alarmer quand ils reçoivent une alerte sur leur téléphone. On aurait pu nous aider financièrement pour inciter les gens à rester, mais non, rien.
C'est ce que dit aussi le vieux Gheorghi, assis à l'ombre sur une pierre devant sa ferme. Il se veut philosophe, le vieil homme, et plutôt de l'école stoïque.
Je suis allé voir les bunkers pour voir. Mais moi, j'ai un vieux téléphone qui ne sait pas lire les alertes par SMS. J'entends régulièrement les sirènes sur Izmaïl. Alors je regarde ce qui se passe pour voir s'il y a du danger. C'est fréquent, mais bon.
Bonjour Léonard Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de ce reportage et on l'a entendu, depuis les bombardements de l'année dernière sur Izmaïl, les habitants du côté roumain du Danube sont inquiets. Et alors que l'été approche, leur inquiétude grandit encore.
Oui, parce que l'été, c'est la saison des moissons. Et ça, les habitants de Plaoru le savent depuis toujours. Le maïs et le blé sont une ressource indispensable pour l'économie ukrainienne. Et les exportations vont donc reprendre à un rythme soutenu une fois la récolte effectuée, stockée et répartie à partir du mois d'août. Or, le port d'Odessa reste à la merci des bombardements russes depuis la Crimée, la mer Noire, ou bien les territoires occupés du sud-est de l'Ukraine. Les exportations par la route vers la Pologne ou par le nord de la Roumanie ne représentent que des volumes forcément limités. Le port d'Izmaïl, toujours en activité, reste donc un nœud commercial stratégique et les drones russes n'ont pas beaucoup de mal à l'atteindre, même si la défense anti-aérienne ukrainienne est bien en place.
Léonard, les habitants de Plaoru craignent surtout que la guerre ne déborde sur la Roumanie et ne provoque une réaction en chaîne chez eux.
Oui, aussi bien les habitants, vous avez entendu, que le maire de la commune ont tous répété devant moi le même mot. Ils ont témoigné de la même crainte pendant mon séjour sur place. Ils parlent de la peur de l'escalade. Ce qu'ils craignent, c'est aussi que ce ne soit pas non seulement des céréales, mais aussi de l'armement qui passe par Izmaïl, mais aussi que les bombardements n'atteignent leurs biens, évidemment. Ils ont donc peur que leur petit coin de campagne ne se trouve au démarrage d'une réaction en chaîne incontrôlable. La Roumanie, rappelons-le, est membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Il y a une base de l'OTAN à Constanța, à une centaine de kilomètres de Plaoru. Ils en ont une conscience claire. Ils sont au courant des équilibres stratégiques sur lesquels se tient leur petit village.
Et c'est sans doute pour cela, alors, que le gouvernement roumain a mis du temps à admettre que des débris de drones russes étaient bel et bien tombés sur leur territoire.
Exactement, et ça leur donne un peu le vertige, d'autant qu'ils se sentent abandonnés ou disons négligés par le gouvernement roumain.
Merci Léonard Vincent, à bientôt. Russie, l'opposition à la guerre est toujours sévèrement punie, mais la répression ne s'arrête pas là. Le gouvernement a renforcé son arsenal législatif de façon à pouvoir rendre illégale n'importe quelle expression publique. Un procès particulièrement médiatique s'est ouvert le mois dernier à Moscou, celui de deux femmes, Evgenia Berkovitch et Svetlana Petrychuk. L'une est metteuse en scène, l'autre est dramaturge. Sur fond de contes populaires qui glorifient le prince charmant, leur pièce, Finist, le clair-faucon, raconte le parcours de deux jeunes femmes qui tombent amoureuses de combattants de Daesh, ce qui leur vaut d'être jugées pour apologie du terrorisme. Antoine Nicole a traduit le texte en français. Il est au micro d'Étienne Bouche. Il nous raconte pourquoi cette pièce déplaît autant au pouvoir de Moscou.
C'est une pièce qui a une portée féministe importante et l'accusation parle d'extrémisme féministe. Alors ça, c'est une notion qui est assez importante dans l'espace médiatique et judiciaire russe depuis quelque temps. L'idée que le féminisme russe est une doctrine extrémiste qui peut pousser des jeunes femmes à commettre des actes de violence, voire des attentats et des crimes de masse.
Le cas d'Evgenia Berkovitch et de Svetlana Petrychuk, il est particulièrement intéressant parce que pour la première fois dans la Russie post-soviétique, ce sont des artistes qui sont mis en cause dans une affaire pénale pour leur œuvre elle-même. Comment vous interprétez ces poursuites ?
Une des raisons pour lesquelles ces deux jeunes femmes-là ont été visées, c'est parce qu'elles étaient là. C'est-à-dire qu'on pouvait les mettre en prison, médiatiser le procès, les tenir en otage pendant plus d'un an, parce qu'en fait, le procès à proprement parler a commencé un an après leur arrestation. Evgenia Berkovitch, c'est une jeune femme qui a deux jeunes enfants. On lui a interdit d'aller s'installer chez elle sous surveillance policière pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de pression complètement fabriquée par le pouvoir russe autour d'une affaire qui n'a aucun fondement juridique pour faire pression sur l'ensemble d'un milieu artistique d'avant-garde, au travers de ces deux jeunes femmes qui malheureusement étaient là et pouvaient servir, disons, d'otages.
Antoine Nicole, vous avez cofondé la maison d'édition Sam Pizdat, qui traduit des auteurs russophones libres et engagés. Est-ce parce qu'il n'y a plus d'espace en Russie pour ce type de littérature ? On sait que le monde de l'édition était longtemps, enfin jusqu'à présent, relativement épargné par la censure.
Oui, alors ça c'est fini maintenant, c'est-à-dire que la censure, elle est revenue avec Vladimir Poutine, elle s'est réinstallée très lentement et elle a évidemment explosé après le 24 février 2022. Maintenant, la publication, disons, libre n'existe plus vraiment. Il y a des mots qui sont proscrits, le mot « guerre » est proscrit. Pour la raison aussi qu'il y a une pression énorme qui est exercée contre ce qu'ils appellent là-bas la propagande LGBT, en sachant que propagande LGBT, ça renvoie également simplement à des positions féministes. Après, il y a tout un milieu de l'édition russophone qui s'est recréé en exil, ce qu'on appelait en URSS le tamizdat, l'édition à l'étranger. De ce point de vue-là, effectivement, on revient à une sorte de situation telle qu'on l'a connue à l'époque soviétique.
Finiste, le clair-faucon de Svetlana Petrychuk est paru aux éditions L'espace d'un instant. Antoine Nicole était au micro d'Étienne Bouche. En Croatie, pour la première fois depuis l'indépendance du pays, un parti ouvertement xénophobe et anti-serbe est arrivé au pouvoir. Suite aux législatives du 17 avril, le premier ministre conservateur Andrej Plenković s'est en effet vu contraint de former une alliance avec le mouvement patriotique, le DP d'extrême droite. Le dirigeant de ce parti, Ivan Penava, est le maire de Vukovar. Dans cette ville, symbole des atrocités de la guerre des années 90, il a mené une politique de division en instrumentalisant les traumatismes du conflit et en attaquant la minorité serbe. Reportage à Vukovar de Louis Seyé.
À quelques pas des eaux du Danube qui forment la frontière avec la Serbie, la tour se dresse encore couverte de dizaines d'impacts d'obus. En 1991, le château d'eau de Vukovar a été pilonné par l'armée yougoslave et les paramilitaires serbes. La ville a été presque entièrement détruite pendant les trois mois du siège. Darko Stepanovic est un vétéran de cette guerre des années 90. Il découvre Vukovar, ville martyre et symbole de l'unité croate.
Nous allons visiter tout Vukovar pour voir tous ces endroits, ces rues où sont morts nos célèbres défenseurs. Nous allons allumer une bougie en leur honneur. Nous, les Croates, nous aimons cette ville parce que Vukovar, c'est un symbole de résistance à l'agression de notre pays.
Le château d'eau de Vukovar a été transformé en musée en 2020 et la visite de ce lieu de mémoire est aujourd'hui obligatoire pour les élèves de Croatie. Toute la journée, les bus scolaires se succèdent sur le parking. Venue d'Istrie, Tamara Deletic a fait 9 heures de route avec ses collégiens.
J'avais leur âge quand la guerre a éclaté et je regardais ce qui se passait à Vukovar à la télévision. C'était comme regarder un film. C'est seulement il y a 5 ans, quand j'ai amené des enfants ici pour la première fois, que j'ai réalisé ce qui s'était réellement passé. C'était très difficile pour moi. Aujourd'hui, j'espère que mes élèves ont appris certaines choses et qu'ils retiendront des informations de ce qu'ils ont vu aujourd'hui.
Près de 30 ans après la fin de la guerre, Vukovar a été quasiment entièrement reconstruite et la ville dispose d'infrastructures modernes financées par l'Union européenne. Croates comme Serbes se côtoient tous les jours, mais les traumatismes du passé hantent toujours la ville. À 42 ans, Kristina travaille à la poste et au marché municipal. Elle a dû partir comme réfugiée avec ses parents en 1991 et elle a perdu plusieurs de ses proches lors du conflit.
Peut-être que mon voisin ou d'autres habitants de nationalité serbe ont participé au meurtre des membres de ma famille qui se trouvaient à Vukovar dans les années 90. Il y a tellement de problèmes non résolus. Il faut encore que certains rendent des comptes, que tous ceux qui ont commis des crimes soient punis, quelle que soit leur nationalité, croate ou serbe. Mais rien n'est fait pour ça. Ici, les divisions sont entretenues dès le plus jeune âge. Vous avez des écoles qui suivent le programme serbe et d'autres le programme croate. Mais le problème, c'est qu'elles n'enseignent pas la même histoire. Pour certains, le 18 novembre 91, Vukovar est tombée et pour d'autres, ce jour-là, elle a été libérée. C'est n'importe quoi.
Ces divisions communautaires, le maire de la ville n'a cessé de les entretenir. Ivan Penava, 49 ans, est passé par le Parti des conservateurs croates et il est aujourd'hui le chef d'une formation ouvertement xénophobe et révisionniste. Son mouvement patriotique vient d'entrer au gouvernement après avoir violemment attaqué les droits de la minorité serbe. À la tête de la mairie de Vukovar, il avait déjà fait interdire l'utilisation de la langue serbe et de l'alphabet cyrillique. Comme beaucoup de Serbes de Croatie, Dušan Velimirović s'inquiète de l'arrivée au pouvoir de cette coalition très à droite.
Demain, la rhétorique de ces partis peut mettre quelqu'un en danger. Il peut y avoir des incidents. Vukovar est une ville qui connaît déjà des incidents interethniques, même s'il n'y en a pas beaucoup plus que dans d'autres villes. Mais à Vukovar, le moindre incident est scruté. C'est une ville qui se caractérise par une lutte entre les différentes nationalités. Cette coalition peut provoquer de nouvelles tensions, mais j'espère que ça n'arrivera pas.
Comme dans beaucoup d'autres villes d'ex-Yougoslavie, les habitants de Vukovar se sentent prisonniers des querelles politiques qui opposent toujours Zagreb et Belgrade. Sur le terrain, beaucoup d'acteurs de la société civile essaient de dépasser ces tensions nationalistes et de faire renaître le vivre ensemble. Dijana Antunović-Lazić dirige l'ONG La Maison de l'Europe, une maison située sur le Danube et dont la façade porte encore les stigmates du conflit.
Les habitants de Vukovar sont mécontents parce que leur ville sert régulièrement de terrain d'entraînement pour les combats politiques. La ville est utilisée aussi bien au niveau national que local par les hommes politiques, locaux et nationaux. Mais nous, les habitants de Vukovar qui vivons ici, quelle que soit notre nationalité, nous essayons, comme nous pouvons, d'œuvrer à la construction d'une ville qui ne soit plus la même qu'avant la guerre et qui ait à nouveau les caractéristiques d'une Vukovar multiculturelle, une ville qui serait une belle petite ville européenne, moderne.
Une vision rassembleuse que ne partage pas le nouvel exécutif croate. Pour son entrée au gouvernement, l'extrême droite anti-serbe a obtenu 3 ministères importants, agriculture, économie et démographie. Le maire de Vukovar, quant à lui, a été élu vice-président du Parlement.
À la réalisation Françoise Grelot, vous pouvez retrouver toutes les éditions d'Accent d'Europe sur l'appli Pure Radio et sur le site de RFI. Restez avec nous, l'info continue dans quelques instants.